Radio Campus Bruxelles 92.1.
Sont éparpillés. Bienvenue à la conspiration des planches des chroniqueurs qui vont encore au théâtre, fin de saison, un peu crevé, mais on y va. Avant-dernière émission de la conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène, en direct chaque mercredi 19h, 19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. Donc la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Et il y a encore des créations, vraiment les dares des dares. On ira voir deux femmes à quatre pattes et peau de mouton. Oh, à la balsamine, sans blague, ça s'appelle Les Moutons, mais ça parle de Sartre apparemment. Et Olivier, ça c'est toi qui l'as vu.
Oui.
Tu confirmes, ça parle de Sartre?
Ça parle de philosophie.
Okay. Et elles sont bien à quatre pattes avec des peaux de mouton.
Elles sont bien à quatre pattes avec des peaux de mouton.
On en saura plus tout à l'heure. Alors Elisabeth, elle s'est farcie le Vauchel, hein, le monologue, voilà. Sherpa, histoire d'un gros cœur.
D'un cœur gros peut-être, ou je sais pas. Oui,
et c'est
voilà.
Quoi, c'est chagrin d'amour?
Non, c'est pas chagrin d'amour, c'est juste quelqu'un qui naît comme ça, avec le cœur un peu trop gros et des. Voilà, il pleure, ça pleure dans son cœur.
Oh, il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. On ira faire un petit coucou à la Maison du Comte qui fête ses 10 ans avec un beau programme, Elisabeth, ce week-end. Et on ira faire vraiment un petit aperçu pour la danse continue. C'est la Monnaie qui s'exporte au Théâtre National et c'est la chorégraphe allemande Sacha Valls. Mais là, je me retourne et je dis... Alors Olivier, toi tu as fait Les Moutons pour nous et avant tout on salue Nico qui nous regarde tout souriant, il est bientôt en vacances, qui assure la technique et les commentaires théâtre.
C'est bonsoir.
Nico. Alors Oli, on belle.
Voilà, moi je suis parti à la Balsamine pour ce dernier spectacle et je voulais dire avant tout que c'était un spectacle qui m'avait réconcilié avec la Balsamine parce que c'est une saison, c'est la première saison de cette nouvelle direction avait mis en avant, en tout cas dans ce que j'ai pu voir, des préoccupations esthétiques qui oublient un petit peu le spectateur. Et ici... Mm-hmm. Voilà, le spectateur retrouve sa place et a du plaisir en tant qu'amateur de théâtre. Mmh. Alors, Les Moutons, c'est la première création de deux jeunes comédiennes, Lise Vitamère et Elena Pérez. Lise Vitamère, qu'on a pu voir dans le projet Gros Orgo de Françoise Bloch, et Elena Pérez chez Aurore Fatih. Elles sont toutes deux issues de l'INSAS. Mmh. Et ça fait un petit temps qu'elles veulent porter ce projet sur Les Moutons. Alors, de quoi ça parle, Les Moutons? Les Moutons, elles incarnent vraiment deux moutons, deux brebis, avec une peau de mouton. Il y a un mouton blanc, un mouton noir. Le mouton blanc, la blonde, est un peu écervelée, un peu naïve. Le mouton noir, les cheveux noirs, est un peu cynique, un peu tyrannique. Elles s'appellent toutes les deux Corinne. Et elles se présentent devant nous. Elles nous disent qu'elles ont tout, qu'il n'y a plus de guerre, qu'il n'y a plus d'abattoir, et donc il n'y a plus de désir parce qu'il n'y a plus, elles ont tout. Et puis, bon, pourquoi est-ce qu'elles en sont arrivées là? Eh ben, elles vont nous raconter ce qui s'est passé avant. Et donc, on revient 10 ans en arrière quand elles sont dans le pâturage. Pourquoi elles quittent ce pâturage et comment elles vont se retrouver après un certain périple dans un zoo?
Ah oui, et donc il y a une évolution, il y a une fable, il y a tout pour
c'est
faire un spectacle.
Voilà, c'est une fable animalière, on est dans un univers, la scénographie c'est un univers, une espèce de chantier, de lieu un post-industriel, un peu ravagé. Ça commence très fort par une espèce de machine à catapulte à crottin. Il y a un musicien sur scène, Tommy, qui vient régulièrement ponctuer... de ces petites musiques, le spectacle, parce que les deux comédiennes font des intermèdes musicaux et interprètent des tubes des années 80.
Elles jouent et elles ont écrit le texte.
Elles ont écrit le texte, ouais. Alors la phrase la plus qui revient quelques fois pendant le spectacle, c'est une phrase de Sartre qui dit « L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on a fait de nous ». Et c'est un peu le fil conducteur de la pièce parce qu'elles essayent, à travers ces deux personnages de moutons, d'interroger ce qui fait l'être humain, de ce qu'est l'essence de l'être humain aujourd'hui.
Reste des suiveurs, peut-être.
Ben, voilà, c'est un peu la question. Et donc, non seulement c'est une interrogation de ce qu'est l'être humain, mais aussi de la société actuelle, parce que le zoo, c'est la métaphore de, ça peut être aussi la métaphore de notre propre société très confortable, parce que lorsqu'elles se retrouvent dans ce zoo, elles sont obligées de faire régulièrement des petits shows face au public, face à nous, puisque nous, on est la plupart du temps éclairés également, donc on est participant de ce spectacle.
Et est-ce que c'est un spectacle où elles sont tout le temps en peau de mouton ou à quatre pattes, ou bien on les voit debout?
Non, elles sont la plupart du temps debout.
Okay. Parce que moi j'avais vu aussi à la Balsamine Aileen Perrolin qui faisait aussi un spectacle avec des peaux de mouton. C'était de la danse et ça se cognait. C'était toute une première partie très folk et une deuxième partie le monde joyeux qui se bagarre et les moutons. Est-ce qu'il y a une violence ici dans le ou bien on est plus
dans un côté plus brut, aussi bien dans l'aspect esthétique que dans le langage. Voilà, elles ont privilégié le côté immédiat de la chose. Et leurs influences sont clairement à chercher du côté du théâtre de l'absurde, de Beckett, Jarry, Ionesco, et aussi de la bande dessinée. La bande dessinée des années fin 70, début 80, française, Claire Bretrécher, Pétillon, ou plus actuellement, Johann Sfar.
Mm-hmm. Et ça tient la route, alors?
Ça tient tout à fait la route, c'est impertinent, il y a une vraie réflexion. Non, c'est vraiment un vrai plaisir.
Bon, allez, on termine sur une bonne note de la Balsamine. Après ton
cruel, on suivra Olivier comme des boutons.
Enfin, on va aller bêler jusqu'à la Balsamine.
C'est jusqu'au 28 juin à 20h30.
Ok, c'est la salle classique.
Non, c'est dans le studio.
3xw.balsamine.be.
Alors, petite annonce, enfin petite critique du spectacle que j'ai vu hier. Donc, la chorégraphie continue de Sacha Valls donc c'est la Monnaie qui produit. Ça vous donne déjà le niveau et ça se passe au Théâtre National. Et pour cause, il y a 24 danseurs sur scène. Alors, 24 danseurs. Avant de rentrer, j'avais dit méchamment, c'est difficile de rater une chorégraphie où une première partie est en noir, une deuxième partie est en blanche, les comédiens en blanc ou noir, 24 comédiens sur scène avec de temps en temps une trace de ligne rouge. C'est ce qu'on annonçait dans le dossier de presse. Et il y a donc cette beauté qui est là, qui est exactement là, parce que 24 danseurs, tantôt en noir, tantôt en blanc, ça le fait. Mais finalement, à un moment donné, Sacha Valls veut questionner d'abord 10 ans de sa pratique. Elle a fait des inaugurations de célèbres musées comme à Rome, comme à Berlin et tout. Donc elle fait un travail sur son rétrospectif, en fait, sur sa grammaire chorégraphique. Et finalement, elle interroge le chaos, le couple, le groupe. Des choses assez évidentes en danse. Hein. Vous prenez 20 danseurs, vous en détachez un. Il y a déjà une violence face au groupe. Si en plus de ça, il y a un mouvement où on essaye de sauter parmi ces 20 qui vous rejettent, il y a une tension. Sauf qu'ici, la tension, elle est, pour moi en tout cas, elle était très pauvre. Il y a eu une grande standing ovation. Moi, j'ai trouvé ça un peu léché. Donc, la première partie est en noir, toute une laque noire, et ça démarre sur Varese, des percus assez grinçantes, assez fortes. Il y a un côté tribal, on compare souvent au sacre
du printemps. Dans la partition de Varese.
Dans la musique, et puis alors, interroger le chaos, ça le porte. Hein, chaos intérieur, chaos extérieur, chaos de groupe, chaos de couple. Donc, il y a un moyen de faire des variations assez fortes ou assez tribales sur cette musique. Elles ont des grandes robes esthétiques qui permettent de lever la jambe et de voir un morceau de tissu qui se lève avec. C'est très beau. Mais finalement, il n'y a pas... C'est méchant. Enfin, c'est pas méchant, mais en même temps, on compare avec le Sacre du printemps de Pina Bausch et de Béjart. Il y a une violence ou quelque chose de tribal qu'ici, en tout cas, moi, ça m'a manqué. Il y a une deuxième partie blanche où là, effectivement, les traces de rouge, finalement, c'est les danseurs qui les provoquent avec les pieds. Rouge, blanc et noir. Ils sont en blanc, ils sont en noir, ils se croisent. Il y a quelques beaux moments par-ci, par-là, mais en même temps, on se dit que... Moi, en tout cas, ce qui m'a manqué, c'est la violence qui sous-tend, même si elle ne se voit pas directement, qui est une force. Là, j'ai trouvé que les danseurs, appliquaient leurs mouvements et qu'il n'y avait pas vraiment de présence. Mais je signale, il y avait une grande standing ovation. Il y a un allumé qui s'est levé, qui a crié pendant 10 minutes des bravos, on n'a pas compris. En tout cas, voilà, c'est Sacha Valls. Continue. Et ça, c'est encore à voir jusqu'à demain. Pour ceux qui aiment le spectacle et voir la danse contemporaine et qui ne sont pas habitués, il y a un bonheur à prendre dans ces 24 danseurs qui font ce fameux continu, et c'est pas une musique live, sauf la première partie, malheureusement. Ça, c'est pour Sacha Valls au Théâtre National, www.lamonnaie.be. Et je me retourne pour tout à fait autre chose, hein, Elisabeth. Là, on va probablement dans une petite salle du Théâtre Le Public.
Voilà, dans la salle des voûtes, je pense qu'on appelle la petite salle en bas. Et là-dedans, on retrouve Philippe Vauchel, qui est un habitué des seuls en scène. Et là, c'est un nouveau seul en scène où il incarne un de ces vieux garçons qui n'a pas su quitter sa maman. Et j'en veux pour preuve qu'il est sur scène avec sa maman. J'ai pourtant bien dit qu'il était seul en scène. Ben non, tout simplement parce qu'il a une marionnette, une de ces marionnettes comme on fait maintenant, une assez grande, etc., qui amène évidemment pas mal d'émotions dans le spectacle et tout ça, qu'il manipule aussi, mais relativement peu, on va dire. Enfin, elle est toujours là tout de long. Et qui est cet homme? Eh bien, c'est un cœur gros ou un gros cœur. Mais enfin, c'est quelqu'un qui partant d'une malformation cardiaque finalement. Et juste quelqu'un qui a un peu du mal à s'adapter, qui donc reste dans les jupes de sa mère jusqu'à ad vitam. Et ben voilà, c'est Philippe Vauchel. Alors c'est un seul en scène avec la présence du comédien, avec une adresse au public aussi par moment. J'ai regretté personnellement, parce que aussi la salle, je pense, était plus standing ovation que moi, j'ai regretté un peu le manque d'évolution qu'il y avait dans le personnage, parce que finalement le personnage est tellement cette image qu'on peut en avoir du vieux garçon qui fait...
Il s'adresse à sa mère, en fait, pendant le
spectacle. Il s'adresse par moment à sa mère, par moment au public, par moment un peu à lui-même, etc. Mais est-ce tout qu'il... est tellement donné d'emblée que le personnage n'évolue pas, puisque c'est par essence un personnage qui n'évolue pas. Et donc, bon, au bout d'un moment, on a un peu compris.
Il n'est pas en introspection, où lui-même, on le suit dans sa réflexion et
oui,
dans son cul-de-sac.
Bien sûr, on est dans ses pensées, mais alors
est-ce
ça change.
Est-ce qu'il se met en question?
Mais ce personnage, ne se met pas en question, parce que je pense que c'est typiquement un personnage qui ne peut pas évoluer. Alors bon, c'est vrai qu'on est là, et puis nous, on dit, voilà.
Est-ce que c'est un drame au théâtre, un personnage qui n'évolue pas? C'est vrai, hein, c'est une question.
Pour moi, c'est quand même... Ce qui est intéressant, c'est effectivement de vivre quelque chose en direct et de vivre l'évolution du personnage. Or là, c'est écrit d'emblée, c'est écrit comme ça qu'il n'y en a pas. Cela dit, il y a quelques petits morceaux de bravure, comme lire le Botard en scène. Il faut quand même le faire pendant quelques heures. Ça a du sens dans le spectacle, comme faire une minute de silence, aussi une vraie minute de silence. Oui. Bon, voilà, il faut tenir son public, il faut être dans cette interaction-là.
Est-ce qu'il joue avec la marionnette ou pas?
Il joue un petit peu avec la marionnette, mais elle est là, elle est là pour le situer, mais c'est vrai que c'est pas un jeu, il ne s'est pas transformé en marionnettiste, mais il la manipule avec beaucoup d'attention, beaucoup de... Oui, il se passe quelque chose quand cette marionnette est là, évidemment.
Et Vauchel est un bon comédien.
Oui, c'est un bon comédien. Non, j'ai vraiment regretté qu'il n'y avait pas un peu de pouf, d'enjeu, de quelque chose dans le texte qui fait que, on se dit, ok, on est un gros cœur ou un cœur gros, je ne sais plus, excusez-moi, mais on n'est pas obligé d'être dépressif toute sa vie, on a quand même une porte de sortie, là, comme ça, on sait tout ce qu'on souhaite pour ce personnage.
Et lui, justement, un personnage qui n'évolue pas, alors comment se termine la pièce?
Mais simplement, il dit au revoir, quoi. Il dit au revoir, et puis à la fin, Philippe Vauchel revient saluer et disait, j'espère que je ne vous ai pas plombé l'ambiance pour la soirée. Mais bon, cela dit, ce n'est pas un spectacle lourd non plus, parce que bon,
il a une légèreté.
Il a une légèreté, il a son humour, il a cette petite touche, etc. Mais bon, je pense qu'il faut aussi être honnête, c'est un spectacle qui va probablement toucher un peu plus les quinquas, on va dire.
Mais il avait déjà fait la grande vacance, voilà, sur la mort, et c'est vrai, veut plomber les spectateurs.
Mais je sais pas, mais en même temps, c'est vrai que ce qui est très juste et intéressant finalement dans sa proposition, c'est qu'il remet en question la place qu'a la mort dans nos sociétés, où on la nie complètement. Là, il est dans un personnage qui nous dit, mais les morts existent, et rappelons-nous, et rappelons-les nous, et accueillons les et tout ça. Et voilà. Donc, sa proposition est intéressante, évidemment. Non, mais il y a plein de petites choses comme ça, mais ça m'a manqué quelque chose. Donc, allez, on y va, quoi. Un petit moteur et tout.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est aigre-doux?
Aigre-doux, je ne dirais même pas non. C'est vraiment quelqu'un qui ben voilà, il est comme ça, il s'assume comme ça, et c'est comme ça. Et c'est comme ça jusqu'au 7 juillet.
Bon, allez voir un personnage comme ça, qui est comme ça et qui reste comme ça. C'est voilà. Sherpa.
Voilà, c'est Sherpa.
Et c'est au public, www.lepublic.be.
La conspiration.
Voilà, et c'est la maison du conte qui se situe joliment au Rouge Cloître, la petite fermette, fête ses 10 ans d'existence avec un festival.
Voilà, et c'est une occasion de voyager peut-être au Japon, qui sait. Alors normalement, on est en ligne, Patrick Ferré ?
Oui, je suis là.
Voilà, bonsoir. Alors, bonsoir. 10 ans, ça se fête, c'est ça ?
10 ans, ça se fête, effectivement. C'est une grande nouvelle pour nous d'avoir ce projet qui a tenu pendant ces 10 années et qui a été porté au départ par Amadi et Claudine Hartz. Et donc, on est ravis que 10 ans plus tard, le projet soit toujours là, et on est aussi ravis de l'ampleur et de la diversification qu'il a pu prendre. Oui.
Voilà, et en fait, c'est un anniversaire qui prend une dimension européenne, puisque vous êtes associé à un projet européen qui s'intitule « Voie de traverse ».
Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est aussi l'occasion, lors de cet anniversaire, de mettre sur orbite ce projet européen, donc qui rassemble une association venue d'Aquitaine, qui est Attention au chantier vocal, une association qui vient de Galice, et la fondation Illa de Saint-Simon et la Maison du Comte de Bruxelles.
Voilà. Là, oui. Et le dénominateur commun, c'est la voix, finalement, parce qu'on ne va pas compter sans voix.
C'est ça, le dénominateur commun, c'est la voix. Effectivement, Attention au chantier vocal, ben, on a un rassemblement de chanteurs, de musiciens, et la Maison du Comte, la parole, donc la voix dans toutes ses déclinaisons et sous toutes ses formes et sous tous ses aspects.
Voilà, mais est-ce que la langue est uniquement le français, ou est-ce que, par exemple, la Galice, ils garderont leur langue, ou comment ça se passera ?
Alors, bien sûr, puisque une partie du projet va consister à aller collecter des récits de voyages sous leur forme, d'ailleurs pas simplement le voyage comme placement dans l'espace, mais aussi le voyage intérieur, le voyage spirituel, et donc les personnes qui vont être rencontrées, ben, s'exprimeront dans leur langue, mais le travail artistique qui sera fait autour de ça et les présentations qui seront faites à la Maison du Comte, par exemple, se feront en français, de telle sorte que la langue soit accessible et compréhensible à la plupart du public.
Oui. Voilà, et alors c'est surtout 4 jours de fête, puisqu'en fait vous démarrez demain jeudi.
Oui, c'est ça. Donc demain jeudi, c'est la partie officielle, c'est la présentation officielle du projet européen. La partie artistique commence véritablement vendredi vers 18h30 avec les premières présentations des élèves de dernière année de l'École internationale du Comte.
Voilà. Et alors, il y a surtout des moments phares, finalement, samedi et dimanche au Rose Cloître, avec une veillée à 21h le samedi.
C'est ça, la veillée est à 21h le samedi, et donc là ça va être le rassemblement des Calamities, donc qui est une compagnie belge composée essentiellement de Magali Mineur et Christine Andrien, qui sont conteuses et qui font partie de la Maison du Comte de Bruxelles, et des Manufactures Verbales, donc qui rassemblent un groupe de chanteurs et de musiciens venus de France, venus d'Aquitaine et de Galice.
Et donc ça, c'est en extérieur, au Flambeau, ou...
Ah non, la veillée a lieu à l'intérieur de la Maison du Comte, donc dans la salle de spectacle de la Maison du Comte, de même que les présentations de spectacles par les élèves de 3e année de l'École du Comte. En extérieur, c'est dimanche.
Dimanche,
dans le cadre de Rouge Cloître, en fait. Là, il va y avoir des compteurs un peu essaimés, éparpillés partout sur le site du Rouge Cloître, pendant toute la bonne partie de l'après-midi, à partir de 14h jusqu'aux alentours de 18h.
Voilà donc pour le programme de ces 10 ans de la Maison du Comte. Alors 10 ans, c'est peut-être aussi le moment peut-être de faire le bilan. Est-ce qu'on a vu une évolution, une affirmation du Comte en tant que tel ? Parce qu'on sait que ça a été souvent un genre un petit peu soit mis de côté, ou en tout cas un peu entre les deux. On ne savait pas très bien si c'était du spectacle vivant. Ou voilà. Comment définir le Comte finalement ?
Alors oui, vous avez raison, hein, c'est tout à fait, on ne sait pas toujours très bien où il faut classer le conte. Alors les conteurs, eux, savent qu'ils s'apparentent aux arts du spectacle et au spectacle scénique, mais qui ne sont pas non plus des comédiens, qui ne s'apparentent pas à l'art du théâtre, qui ne s'apparentent pas au jeune public, qu'il y a vraiment une spécificité à l'art du conteur, qui est quelqu'un qui est dans une relation au public. C'est déjà un point extrêmement important, c'est que le conteur vient adresser son histoire aux personnes, et il est à la fois narrateur et dans le jeu des personnages. Alors évidemment, le conte a évolué, on ne peut plus le considérer uniquement maintenant dans les images d'Épinal, des conteurs qui comptaient aux veillées d'antan. Il y a évidemment dans la modernité actuelle à mettre le conteur au goût du jour en quelque sorte, et de lui trouver sa place dans la société actuelle. Mais je pense que sa place dans la société reste toujours celle probablement qu'il avait aussi auparavant, et de venir un peu interpeller et de présenter une parole subversive un peu à contre-courant des sentiers battus.
Et on parle bien De contes pour adultes. On parle bien de contes pour adultes parce que tout...
Oh, pas nécessairement de contes pour adultes. Je pense que ça concerne aussi les contes pour enfants. Il n'y a pas de distinction à faire entre contes pour adultes et contes pour enfants. En tout cas, sur le plan de cette dimension-là.
Non, mais parce que vous proposez le dimanche notamment, c'est à partir de 12 ans en général. Est-ce que ça veut dire qu'on évite les tout petits ou...
Ce qui se fait en extérieur l'après-midi, c'est vraiment tout public, vraiment D'accord. public familial. Mm-hmm. Par contre, les spectacles qui sont présentés à l'intérieur de la Maison du Conte à partir de 18h30 par les élèves de troisième année sont plutôt réservés à un public à partir de 12 ans.
D'accord. Est-ce qu'il y a des écritures de contes ou bien c'est des contes recherchés dans le répertoire chez les récits anciens ou des... Est-ce qu'il y a la plupart des contes sont écrits?
Oui, parce qu'on a donné beaucoup aussi aux contes cette valeur de collecte de la mémoire. Hein. On en parlait un petit peu tout à l'heure.
Oui, absolument. Nous, ce que nous défendons, c'est le conte traditionnel, c'est-à-dire celui qui s'est transmis, comme on dit, de bouche à oreille depuis la nuit des temps. Et donc, on n'est pas dans un travail, le travail qu'on propose n'est pas d'écriture d'une histoire sur laquelle on collerait l'étiquette de conte. Pour nous, pour que ce soit du conte, il faut véritablement que ça fasse partie d'une tradition orale, d'une transmission orale au sein d'une culture et à travers des cultures particulières. Donc, quelqu'un qui se mettrait à vouloir écrire une histoire et appeler ça un conte, on ne va pas porter de jugement là-dessus, évidemment, mais c'est pas ce matériau-là qui nous intéresse directement, c'est vraiment celui qui fait partie de la tradition populaire qui s'est transmise de bouche à oreille.
Donc la programmation a un lien avec cette tradition populaire?
Oui, absolument, la programmation est totalement en lien avec ça, et les spectacles présentés par les élèves de troisième année puisent tous dans ce matériau-là. Bien entendu, il y a certaines histoires qui ont été construites à partir de plusieurs contes traditionnels différents, et donc ça fait en quelque sorte une histoire unique et originale, mais ça reste en utilisant le matériau de la tradition orale.
Et dernière question pour moi en tout cas, et on a encore des contes sur des princesses et des princes. Je suis toujours surpris en 2012 qu'on nous reparle des princes tyrans et... Pourquoi ?
Oui, mais dans la tradition orale, on parle effectivement de princes, de princesses, de reines et de rois. Et donc ça nous ramène à une dimension symbolique du conte. Hein. Le conte, évidemment, pas simplement l'histoire de gens qui sont des princes ou qui sont des rois ou qui sont des reines, mais à travers ces personnages-là, il y a une dimension symbolique importante. Le roi est un adulte qui est accompli, qui a une certaine autorité, qui dispose de certaines ressources. Le prince, par contre, est un individu en construction, en élaboration, en devenir. Et donc souvent, sa quête représente les différentes étapes par lesquelles il va devoir passer pour passer du monde de l'enfance au monde de l'âge adulte. C'est pour ça, finalement, qu'on parle de prince et de princesse. Il y a cette dimension symbolique au niveau du conte.
Et c'est tout ça pour un prix symbolique? C'est gratuit?
Alors oui, le prix est symbolique quand il y a prix, puisque les spectacles des vendredis, samedi et dimanche soir sont à 5 euros, on ne peut pas dire que ce ne soit pas démocratique, et le dimanche après-midi, tout est gratuit sur le site du Rouge Cloître.
Alors rappelez également que la Maison du Conte, ça se poursuit évidemment pendant l'année, vous parliez d'élèves tout à l'heure, c'est parce que vous êtes un lieu de formation.
Oui, exactement. Donc la Maison du Conte abrite l'école internationale du conte, donc internationale parce que des formateurs viennent de différents pays, essentiellement de la France et de la Belgique, et aussi on a des élèves qui viennent de différents pays. Actuellement, on a des élèves qui viennent de France et pas seulement des élèves qui viennent de Belgique. Et donc il y a toute une formation qui a été élaborée de 3 ans à une formation de conteur-acteur, et ça a l'occasion pour ces 3 soirées de vendredi, samedi et dimanche de présenter leur spectacle de fin de formation pour les élèves de 3e, mais on retrouvera aussi les élèves de 2e à différents endroits sur le site du Rouge Cloître.
On vous souhaite 10 années encore, peut-être on en reparlera si la conspiration est encore là, on sera avec nos cannes ici parler de la création scénique. Merci Patrick Ferry d'avoir été avec nous.
Excellent week-end, bonne fête.
Et bon anniversaire. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà, la Maison du Conte fête ses 10 ans ce week-end, et Elisabeth confirme, il y a vraiment un excellent programme et dans une ambiance très intéressante au Rouge Cloître. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce week-end. Avant-dernière émission, donc la semaine prochaine, on se retrouvera avec plein d'étudiants de l'IAD, de l'INSAS et de l'ESAC, l'école du cirque. On fera un peu le topo sur les spectacles des sorties d'école qui ont lieu la semaine prochaine. Et déjà cette semaine, le conservatoire de Bruxelles est au Théâtre Royal du Parc pour un Figaro 2012. Donc si vous avez l'occasion de voir. Sinon, la semaine prochaine, ce sera l'INSAS, l'IAD et l'ESAC avec probablement quelques extraits de leur spectacle. Bonne planche à tous. Déjà, les dernières petites planches. Profitons du soleil. Allons au Rouge Cloître. Hein. À la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Elisabeth, Nicolas, Olivier. Olivier, tu bellerais pas un peu pour tes moutons?
Allez, belle semaine à tous. Et nous, podcast de la conspiration des planches, c'est sur demandezleprogramme.be et sur le site de la Bellone. Très, très belle semaine à vous. Conspiración.